France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui fait dialoguer saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Un dialogue des cuisines incarné chaque semaine en fin d'émission par le chef Maurice Acco. Aujourd'hui, à 12h25, Maurice nous parlera de ces tartelettes à la crème aux œufs qu'on adore, venues du Portugal, les pastéis de nata, mais version hongkongaise. Avant cela, nous allons, quant à nous, dialoguer avec deux invités autour de deux livres qui parlent tous deux d'un pays hautement gastronome, l'Italie. Mais une Italie comme on la connaît peu, hors des sentiers culinaires battus. L'une fait la part belle à la beauté des paysages et à la générosité des produits. L'autre y pénètre par les marges de l'histoire et la mémoire singulière du pays. Catherine Roig, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue. Merci. La cuisine des lacs italiens, un livre magnifique paru chez Hachette Cuisine avec les photos d'Emanuela Cino.
Cino.
Un livre qui nous emmène sur les bords des lacs de Côme, de Garde, des lacs majeurs, de Mergozzo, d'Orta, d'Iseo, avec une centaine de recettes, la présentation des principaux produits qui les composent et le portrait des gens qui en sont à l'origine. Alessandra Pierini, bonjour.
Bonjour Caroline.
Devrais-je dire buongiorno?
Buongiorno, c'est...
La cuisine des maisons de plaisir italienne, paru aux belles éditions de l'Épure, c'est un livre qui exhume un document historique très rare, unique en son genre, dans un contexte particulier où la cuisine de l'Italie des années 20 croise l'univers des maisons closes. Et je tiens à préciser que ce livre a reçu le prix du livre du Salon du Livre de Cuisine 2025. Félicitations. Tiens, je vais commencer avec vous, Alessandra Pierini. Point de départ, jeunesse de ce livre. Je disais, c'est un document rare. Comment êtes-vous tombée dessus?
C'est tout à fait un document rarissime et je ne pensais pas de trouver ça un jour dans mes recherches. Et j'étais il y a 3 ans à Forlimpopoli, une petite ville qui est à côté de Bologne. Et j'étais pour autre chose, pour le livre que j'étais en train d'écrire et de traduire avec Stéphane Sellier qui était l'Artusi, qui est considéré un peu la bible de la cuisine italienne, écrit fin 19e. Et dans ce petit village, j'ai rencontré un collectionneur de livres de cuisine français et italien. Et quand je suis rentrée dans sa bibliothèque, vous pouvez vous imaginer comme c'était merveilleux. J'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Et ce collectionneur s'appelle Vittorio Maltoni. Il m'a tendu un petit livre. Et il m'a dit ça, je suis certain que tu ne connais pas. Effectivement, il y avait un titre en français qui était bien La cuisine des maisons de plaisir italiennes. Et à l'intérieur, il y avait 34 recettes. Et ces recettes étaient toutes écrites en italien, donc vraisemblablement vraiment une cuisine bien italienne. Et donc, c'était le livre qui avait été imprimé en 2004 à 138 exemplaires par un collectionneur de Bologne, qui était Giuseppe Zanasi, qui avait entre les mains, depuis des années, un manuscrit qu'il avait retrouvé dans ses fouilles pendant qu'il était à la recherche du livre rare. Et c'était donc un manuscrit qui remontait à 1929, écrit avec des calligraphies différentes. Et surtout, ce qui est très intéressant, donc c'est ce contraste avec un titre en français, les recettes écrites en italien, et à la fin du livre, en guise de signature, il y avait une adresse, le 6 rue des Moulins à Paris, qui était donc à l'époque une maison close très connue, qui était la Fleur Blanche, et qui était la maison close parisienne dans laquelle Toulouse-Lautrec a vécu pendant des années et dans laquelle il a peint énormément de ses chefs-d'œuvre que nous connaissons aujourd'hui.
Et cette maison était tenue par une certaine Madame Cora.
C'est
elle qui aurait rédigé ce livre en 1929 au cours d'un voyage en Italie.
C'est bien ça. Et donc, avant d'entamer en fait la traduction de ces recettes, j'ai commencé donc une recherche donc historique, une enquête, une véritable enquête un petit peu autour de ce personnage de Madame Cora. Pourquoi elle avait écrit ces recettes, pourquoi à cette époque, et donc. Je remontais la littérature italienne, française. Je suis allée voir dans les archives de la police pour essayer de trouver un petit peu des informations. Je les ai trouvées surtout plus du côté italien. Et donc, j'en ai fait ce livre.
C'est une enquête sur un personnage, donc cette Madame Cora, mais c'est aussi une enquête historique qui nous apprend notamment comment étaient gérés les repas dans ces maisons et qui parle beaucoup de la convivialité entre les femmes qui étaient là, à une époque qui est une époque extrêmement précise, donc vous l'avez dit, 1929, on est en plein fascisme.
Plein fascisme, Mussolini est monté au pouvoir en 1922 en Italie, donc on est en plein cuisine autarcique, donc où là où Mussolini voulait absolument se détacher de tout ce qui était l'importation avec d'autres pays autour, et donc compter absolument uniquement sur les ressources de l'Italie, faire manger à tous ces Italiens beaucoup de pâtes, alors que l'Italie à l'époque ne produisait pas assez de blé pour toute la nation, pour tout le pays. Et donc, il a créé un climat donc d'autarcie, de violence presque dans l'assiette et dans la population incroyable. Et donc, la cuisine de ces maisons de plaisir est un peu le reflet de cette époque assez sombre et malheureuse, mais où l'Italie, elle a essayé quand même de s'en sortir. Et c'est à partir de là, donc, que nous, aujourd'hui, nous mangeons aussi, nous connaissons la cucina povera, qui est la cuisine pauvre, essentiellement, surtout d'ingrédients cultivés dans les potagers, de ressources vraiment du terroir, surtout une cuisine de saison faite de peu, mais très, très riche en saveurs, bien sûr.
Et vous dites à quel point, Alessandra Pierini, dans ce livre, l'alimentation était importante, essentielle pour ces jeunes femmes, parce qu'il s'agissait de les maintenir en bonne santé avant tout.
Tout à fait, hein. C'était le but en fait, donc le régime fasciste avait ce pouvoir aussi sur ces maisons qui étaient en fait réglementées absolument par le régime et qui étaient presque un lieu, on disait, qui avait une fonction publique. Malheureusement pour ces femmes. Et donc la cuisine servait pour les maintenir en bonne santé. Il fallait que ce soit une cuisine rassasiante, pas chère, et donc qu'elles mangent à leur faim, alors que toute la population italienne avait faim, en fait, dans ces maisons closes, de la même façon qu'il arrivait aussi la même chose un peu dans les tranchées, dans les hôpitaux. On mangeait un peu plus que les autres parce que il fallait servir le régime, être en bonne santé, être disponible et tenir le coup.
On est à l'opposé de l'image associée à la femme croqueuse d'hommes, les temples de la sensualité proposaient quand même plutôt une cuisine dominée par l'austérité et la sobriété. C'est une des surprises à la lecture de votre livre « La cuisine des maisons de plaisir italiennes ». Catherine Rouague, vous avez lu évidemment
sûr,
le livre d'Alessandra.
Et on est d'ailleurs passionnant.
À l'opposé aussi, d'une certaine façon, de la cuisine qu'on retrouve sur les bords des lacs, quoi qu'il y ait beaucoup de points communs. Alors venons-en en un mot à cette cuisine des lacs italiens. Déjà, c'est un voyage là où Alessandra nous propose un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace, bien entendu.
Bien sûr.
C'est un reportage culinaire, livre magnifique, je l'ai dit, non seulement par les photos, mais par aussi les textes qui dégagent une énorme sensualité, là on y est, une énorme convivialité.
Oui, c'est l'Italie.
On est quand même vraiment
absolument.
En Italie. Bon, alors déjà un peu de géographie, carte postale de la région.
Alors, la carte postale de la région, ce sont de multiples lacs qui descendent des Alpes, hein, qui dessinent un arc comme ça, d'ouest en est, du nord de l'Italie. Ça enjambe le Piémont, la Lombardie, le Trentin à Haute-Adige, un soupçon de Vénétie. Donc on va vraiment des Alpes telles qu'on les connaît nous, telles qu'on en a une image nous, jusqu'à presque la Méditerranée. Et donc c'est un finalement quand la photographe Emanuela Cino, qui est mon amie et ma complice, a été éblouie par la lumière des lacs et qu'elle m'a proposé de faire ce livre, je me suis dit ok, mais qu'est-ce qu'on connaît des lacs italiens? On connaît la lumière, la beauté des paysages, George Clooney et la Villa Carlotta, en gros. Et je me suis penchée un petit peu sur la cuisine en me demandant si ça constitue un terroir. Et finalement, oui, parce qu'on a des reliefs contrastés, ce sont des lacs glaciaires, on a donc grâce à ces reliefs, on a des petites exploitations agricoles, donc des produits très authentiques, que ce soit les fromages, les viandes ou les légumes ou les céréales qui sont très présentes. Voilà, on a comme ça cette géographie. On est dans une autre Italie. C'est une cuisine italienne qu'on connaît peu parce que il n'y a pas de tomates et pas de pizza dans ce livre, hein, pratiquement. En tout cas, pas de pizza, c'est certain. Mais quand on dit la cuisine italienne, ça me dérange beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire la cuisine des lacs? Ou est-ce que c'est chaque lac possède ses spécialités?
Alors, chaque lac a des spécialités, mais il y a beaucoup de points communs. Voilà. Notamment les poissons d'eau douce qui sont extrêmement présents, notamment les gibiers, notamment les céréales.
Alessandra Pierini, vous connaissez évidemment très bien cette cuisine des lacs. D'ailleurs, vous avez fait un voyage en juin gastronomique autour du lac de Côme.
Du lac de Côme. J'y retourne donc dans quelques jours.
Donc vous avez toutes les saveurs encore en bouche.
Tout à fait, c'est une cuisine bien particulière, comme disait Catherine, et c'est cette cuisine où le lac ne peut pas se passer de la montagne, donc c'est à la fois une cuisine un peu d'eau douce, mais avec ces alpages où on produit énormément de céréales, dont le sarrasin et tous ces fromages.
Bien sûr.
Qui sont indispensables pour les vaches, donc où ils vont l'été pour produire des fromages bien particuliers en cette saison.
Oui, Catherine Roy, que vous dites, notamment sur les rives septentrionales des lacs, c'est la culture du sarrasin et de la myrtille, et puis plus au sud, on a les citrons et les olives.
Oui,
si je dois schématiser.
C'est pour ça que je dis que c'est contrasté. C'est vraiment le lac de Garde. En haut, à Riva del Garda, vous êtes presque en Autriche, puisque l'Autriche occupait encore cette région il y a une centaine d'années, avec des myrtilles, avec des fromages. Vraiment, on est dans la montagne. Et je ne sais pas, moi, c'est peut-être 60 ou 80 kilomètres plus bas, on est dans le citron et l'huile d'olive. Ça, c'est le lac de Garde. C'est très contrasté. Et en même temps, et vous avez cette cuisine avec le riz, la plaine du Pô n'est pas si loin, on a quand même, c'est extraordinaire. Franchement, c'est une région gastronomique qui mérite d'être découverte.
Alessandra Pagnini.
Oh, tout à fait.
Je ne vais pas dire le contraire.
Je suis d'accord. Non. En plus, tout à l'heure, avec les cuisines des maisons de plaisir, on parlait de cucina povera. Et on peut dire que cette cuisine du lac, malgré ses paysages somptueux, est à la base quand même une cuisine pauvre, donc très agricole.
C'est très rural. C'est extrêmement rustique, rural. Vous avez beaucoup de soupes très rustiques à base de céréales. Vous avez beaucoup de choses à base de sarrasin, comme les pizzoccheri, qui sont des pâtes de 100% sarrasin, qui sont utilisées donc dans des pâtes, mais aussi dans des petites crêpes, des petits beignets qui s'appellent les siat, des petites crêpes qui s'appellent les chissioles, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. C'est très rustique, ça tient au corps, c'est vraiment de la nourriture montagnarde, comme le souligne Alessandra.
C'est très rustique, ça tient au corps, c'est quelque chose qu'on aurait pu trouver dans les maisons closes en Italie et dans les années 20-30.
Bien sûr, d'ailleurs, bon, on n'a pas parlé, mais ça, on laissera les lecteurs découvrir un peu l'enquête qu'il y a et pourquoi cette Madame Cora s'est trouvée en Italie. Lors d'un séjour dans la région, donc elle était bien à Milan pendant quelques jours, elle parle de cuisine milanaise, dont elle parle surtout des gnocchi. Et donc, j'imagine aussi que la polenta devait faire partie un peu de tous les jours.
Parce la polenta.
La polenta, on la mange surtout dans cette région avec le maïs, mais avec aussi le sarrasin, donc qui est la polenta taragna, parce que c'était quand même des régions où il y a des températures froides, très rudes, donc les montagnes sont toutes proches, et il fallait donc manger quelque chose de bien nourrissant.
On apprend aussi aussi dans votre livre, Alessandra Piarini, j'y reste un temps, donc ce que mangeaient ces filles dans les maisons de plaisir italiennes dans les années 20, et surtout ce que dit l'alimentation de leur mode de vie. Alors vous parliez de la cuisine fasciste qui était donc réduite à sa plus simple expression des plats simples qui justement devaient tenir au corps. Que nous dit cette alimentation des filles dans les maisons de plaisir sur leur mode de vie ?
Alors, quand on regarde, quand on survole, on se rend compte que c'est bien de la cuisine italienne. Et quand on va un peu plus en profondeur, on voit que c'est quand même une cuisine italienne dans laquelle manque bien quelque chose. En fait, tous ces marqueurs qu'on connaît aujourd'hui de cette cuisine, comme le soffritto, donc cette garniture aromatique qui est dans le fond, à la base d'énormément de plats, dont toutes les sauces, un mélange de ail, d'oignons, de carottes, de céleri. Il n'y a pas du tout de présence d'ail dans cette cuisine, ni d'oignons, ni de poireaux, ni d'échalotes. On imagine que c'était surtout pour des raisons de digestion, mais aussi parce que dans le temps, on pensait qu'on pouvait soigner les maladies sexuelles, surtout la syphilis, en mangeant de l'oignon cru plusieurs fois par jour. Donc, on faisait bien attention de ne pas sentir l'oignon pour ne pas donner le soupçon qu'on pouvait éventuellement avoir contacté cette maladie.
Et qui ça était... fait partie des surprises comme ça de la cuisine italienne qui raconte toujours des histoires, comme toutes les cuisines.
Tout à fait.
Moi, il y a une recette que j'aime énormément sur le lac de Côme, c'est la zuppa d'imbroglio. Oh, oui. Alors, ça, si on traduit, ça veut dire la soupe d'embrouille, hein, Alessandra, si je ne me trompe pas.
C'est bien ça.
En fait, c'est une soupe très consistante, faite à partir de beaucoup de légumes, de lard et d'herbes sauvages, notamment d'ortie. C'est une soupe qui était consommée lors des fiançailles des jeunes gens dans la campagne pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, justement, et pour que le mariage se fasse bien. Et elle était consommée sur le seuil de la maison, dans des bols particuliers, avant que le repas ne se fasse dans la maison, par exemple. Voilà, on a des choses comme
c'est
ça.
Incroyable.
Et quand on parlait de polenta et de nourriture consistante, j'ai découvert aussi là-bas un plat extraordinairement, nourrissant. Ça s'appelle le toc. Le toc. Le toc, c'est un mélange de polenta, beurre et fromage, quasiment à part égale, qui est cuit dans un chaudron en cuivre avec un bâton noisetier pendant des heures, parce que sinon le mélange tranche facilement. Et ça, c'est vraiment un repas dans la campagne du 19e siècle, du début du 20e siècle, un repas de fête, quand il y avait vraiment du beurre et du fromage, c'était quand même la fête, et il fallait se nourrir de ça. Et pour achever les convives, quand le chaudron était vide, on y mettait un peu de vin rouge, on touillait et hop, on buvait ça avec... Alors, j'ai goûté le toc, je peux vous dire que j'en suis tombée à la renverse. C'est délicieux,
c'est difficile pour nous d'en manger beaucoup.
Mais ça dit bien l'histoire, c'est que ce jour-là, on avait l'occasion de se nourrir richement en termes de calories et on le faisait avec bonheur.
Vous écoutez bien les bonnes choses sur France Culture. Nos invités ont toutes les deux écrit chacune un livre extraordinaire, la cuisine des lacs italiens pour l'une, la cuisine des maisons de plaisir italiennes pour l'autre.
On est vraiment dans un entre-deux. On a les parfums de la Méditerranée et puis on a ces poissons du lac. Nés dans les torrents de montagne. Donc on peut vraiment dire que notre cuisine associe les parfums de la Méditerranée et les parfums des Alpes. Et pour finir le plat, on met toujours quelques gouttes d'huile d'olive du lac de Garde. C'est la touche finale. Elle est très légère, très fraîche, pas acide du tout. Pour moi, elle fait partie des trois meilleures huiles d'Italie. La meilleure, je peux pas le dire, mais parmi les trois meilleures, c'est sûr.
Complètement convaincues toutes les deux par cet extrait des Racines et des Ailes sur France 3, diffusé une première fois en 2001. Les choses ont peut-être changé. C'est l'huile d'olive du lac de Garde qui vous a fait vous regarder avec une petite moue, Alessandra Piarini.
Disons qu'on imagine toujours l'huile d'olive italienne comme une huile assez ardente, assez fruitée et très présente. L'huile du lac de Garde, elle est très rare et délicieuse, mais c'est plutôt un fruité délicat. C'est pas l'huile d'olive qu'on a l'habitude de déguster peut-être en France, autour de l'huile italienne, plus dans les siciliennes, celles du sud. Elle est un arôme très délicat, elle est très claire.
Elle est douce,
elle est très, très douce. Elle est très douce.
Moi,
très
c'est
douce.
Sa douceur qui m'a surprise par rapport aux huiles toscanes, où je parle même pas des siciliennes ou des provençales, puisqu'on en a aussi des très bonnes en Provence. C'est vrai qu'elle est très très douce, mais elle est bonne, hein, bien sûr. On fait un autre usage.
Vous avez commencé d'éveiller nos papilles, alors on continue avec quelques recettes prises dans vos livres respectifs. Vous avez construit, Catherine Roig, votre cuisine des lacs italiens, évidemment par lac. Alors, vous avez trouvé des titres à chaque fois. Lac de Mergozzo, c'est les délices en eau calme. Le lac d'Orta, c'est des goûts et des couleurs. Le lac Majeur, c'est la gourmandise en majesté. Le lac de Côme, c'est splendeur et saveur. Le lac d'Iseo, de l'art, une île et des traditions. Et le lac de Garde, l'esprit Riviera. Si on en prend deux, parce qu'on va pas pouvoir prendre tous les lacs, disons l'incontournable, le lac de Côme, et puis un beaucoup moins connu, le lac d'Iseo ou le lac de Mergozzo, comme vous voulez.
Moi, j'aime beaucoup le lac d'Iseo.
Eh ben alors, voilà. Prenons le lac de Côme, le lac d'Iseo.
C'est intéressant de les comparer, parce que une des grandes spécialités du lac de Côme, ce sont les missoltini, qui sont des petites aloses séchées, comme on sécherait des sardines c'est incomparable en fait, c'est séché et séché au soleil à l'origine. Hein. Maintenant, c'est séché dans des séchoirs plus hygiéniques et ensuite pressé avec de l'huile pendant des mois et des mois. C'est mis sous vide et on les consomme toute l'année. En fait, c'était une façon de créer un produit de subsistance, hein, puisqu'on ne les pêchait qu'au mois de juin et pour les garder jusqu'à l'année suivante. Alors, les connaisseurs disent qu'ils sont encore meilleurs 2 ou 3 ans plus tard. Normalement, ils se consomment dans l'année. Donc ça, c'est le lac de Côme. Missoltini, ça vient de missolté, qui est la barrique de bois dans laquelle toute cette opération de pressage et de bain d'huile est faite. Et sur le lac d'Iseo, il y a les stardesicate, qui sont en fait des aloses, qui sont un peu plus grosses et qui sont préparées de la même façon, en fait. Elles, c'est un produit qui est une sentinelle slow food, c'est-à-dire c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine culinaire italien, et on les mange de manière un petit peu différente. Les missoltini, on va plutôt les griller, les manger avec de la polenta, les sardesicate, on va les faire à la poêle avec un peu de persil et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que pour des poissons d'eau douce, on dit toujours ça n'a pas de goût, en réalité, préparé de cette façon-là, c'est extrêmement fort. Très fort, il faut vraiment aimer le goût iodé, le goût... C'est fort, c'est costaud. Moi qui ne suis pas une grande fan d'anchois par exemple, j'ai eu un peu de mal, mais c'est très très bon. Il les prépare aussi, les missoltini, comme ça, les aloses, quand ils sont préparés, ils gardent les arêtes et ils les font sécher. Et ils les mangent comme des chips à l'apéritif. Alors ça, c'est vraiment très étrange. Mais c'est très intéressant.
Alessandra Pierini. Un mot peut-être sur ce que vient de dire déjà Catherine, avant de passer à votre cuisine des maisons de plaisir italiennes.
Missoltini, j'adore. On en fait aussi sur place. Ils font aussi une sorte de boutargue. Donc comme celle de Martigues, à base de brochets. Des poissons de lac comme ça. Et donc c'était justement un apport de protéines dans des saisons où ils ne pouvaient pas forcément accéder à la pêche, surtout en hiver quand il faisait froid et quand les lacs étaient glacés.
Alors vous avez reproduit le cahier de recettes de Madame Cora dans votre ouvrage, traduit et présenté, avec ses premiers services, son plat de viande et de poisson, ses légumes d'accompagnement et ses desserts. J'ai relevé les pizzoccheri, j'ai relevé la polenta taragna, la miaccia et les fromages casera et bito, mais vraiment comme ça, de façon totalement arbitraire, peut-être par la sonorité. Est-ce que vous nous en parleriez?
Les pizzoccheri, ce sont ces pâtes, comme disait Catherine, qu'on retrouve donc autour du lac, surtout faites à base de farine de sarrasin. Parfois aussi, on fait aussi un mélange avec la farine de blé, et qui sont faits surtout à la main et surtout dans un petit village à Teglio où il y a actuellement l'Académie des pizzoccheri de Teglio, parce que c'est aussi un plat qui a une appellation d'origine indication géographique protégée, vraiment pour la région, où les femmes du village les produisent à la main. Et c'est une pâte donc qu'on mélange juste avec cette farine et de l'eau. On l'étale avec un rouleau à pâtisserie et ensuite on découpe une sorte de tagliatelle un petit peu plus courte qu'on fait cuire à l'eau bouillante. Et pendant qu'on prépare les pâtes, on fait cuire des pommes de terre à l'eau et quelques feuilles de choux. Et ensuite, on mélange les pizzoccheri avec les pommes de terre bouillies en petits morceaux, le chou, le fromage, et on mange tout ça arrosé de beurre fondu et de sauge.
Ce que je n'ai pas dit, Alessandra Pierini, c'est qu'à la fin de ce cahier de recettes, il y a deux recettes à part. Oui. Qui sont entre chasteté et jouissance. Les spaghettis à la puttanesque et le tiramisu.
Et le tiramisu, parce qu'ils font partie de ce répertoire italien qui est un peu associé aux maisons closes. Le tiramisu, on dit qu'il a été inventé donc dans la région du nord-est de l'Italie dans une maison close, donc pour remonter, en fait, tiramisu, c'est remonte-moi, pour remonter le physique et le moral éventuellement des clients de ces maisons. Et les spaghettis à la puttanesca, donc il y a putain dans le nom de ces spaghettis, ils auraient été inventés dans les quartieri spagnoli à Naples par des prostituées qui voulaient de cette façon attirer les clients avec cette sauce mijotée avec des tomates, des olives, des anchois, des câpres, et qui est donc assez goûteuse et donc assez voyante par ses couleurs.
Extraordinaire, on apprend, on voyage, on déguste. Voilà, dans vos deux livres, la cuisine des maisons de plaisir italiennes et la cuisine des lacs italiens. Vous restez avec nous pour écouter la chronique de Maurice Sacco.
Avec plaisir. Bien sûr.
Bonjour Maurice Sacco.
Bonjour Caroline.
Il est 12h25, c'est l'heure de votre dialogue des cuisines. Comme chaque semaine, la chronique à la fin des bonnes choses. On est tellement content que vous soyez là.
Super content aussi.
Et en plus, ça tombe bien parce que vous revenez d'Italie. Je crois que vous avez passé votre été en Italie.
Oui, totalement. J'étais en Toscane. C'était assez génial. J'ai mangé les pâtes locales, les pici, à plein de sauces différentes. C'était super bon.
Bon, mais en tous les cas, là, c'est pas des pici dont vous voulez nous parler. Vous voulez nous parler du pastéis de nata.
Oui, le pastéis de nata. Et surtout aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de son cousin asiatique, la egg tart ou pot tart. Le pot est le diminutif de Portugal en référence à son inspiration de base. J'ai découvert cette recette lors d'un voyage professionnel à Hong Kong où, à peine débarqué, on me proposa de découvrir la sucrerie locale. Bien sûr, j'acceptai immédiatement. Et je ne vous raconte pas ma surprise quand on m'a tendu un pastéis de nata. J'ai grandi en Seine-et-Marne, entouré d'une énorme communauté portugaise, donc un pastéis de nata, je sais ce que c'est. Et ce que le Mortadela était bien un pastéis. À la dégustation, le goût était bien présent mais sans la cannelle. Ce qui piqua ma curiosité. Comment une des recettes les plus emblématiques de la gastronomie portugaise était devenue un marqueur de la gastronomie hongkongaise? Naturellement, je pensais à une histoire de migration portugaise. Mais pas du tout. Il s'agit en réalité d'une histoire beaucoup plus récente. Pour la pot tart, c'est celle d'un Britannique du nom d'Andrew Stowe qui décida de faire sa version du pastéis dans sa pâtisserie non pas à Hong Kong mais à Macao. Elle y rencontra un succès assez fou. Donc pas de Portugais dans cette histoire, mais un Britannique. En poussant un peu plus ma recherche, je découvris qu'il existait une recette encore plus populaire et antérieure de la pâtisserie chinoise. La egg tart, elle-même introduite via des influences britanniques. Cette recette ressemble beaucoup au pastéis, mais avec une pâte brisée et non feuilletée. Les deux recettes coexistent et on peut en trouver des versions très simples comme créatives. La egg tart fait partie intégrante du patrimoine gastronomique local et est même vendue dans la plupart des KFC locaux. Comme quoi, quand il s'agit de culture gastronomique, les inspirations prennent parfois des détours. Du Portugal à la Chine, en passant par la Grande-Bretagne, il n'y a non pas qu'un pas, mais qu'une tarte. Je vais finir avec une idée de recette originale. Lorsque vous réalisez vos pastéis, ajoutez un peu de chocolat râpé dans votre appareil aux œufs en fin de cuisson. Puis remplacez la cannelle par du allspice, du poivre de Jamaïque en français, et finissez par saupoudrer quelques graines de nigel sur le dessus. Le côté chaud et brûlant du poivre de Jamaïque, associé à la richesse aromatique du chocolat, et au parfum de la nigelle, vous fera découvrir le pastéis autrement.
Merci Maurice Sacco, c'était le dialogue des cuisines qu'on retrouve bien évidemment sur notre site. Il me reste à remercier nos deux invités d'être venus dans notre studio. Alessandra Pierini, la cuisine des maisons de plaisir italienne 1929 aux éditions de l'Épure, et Catherine Roig, la cuisine des lacs italiens. Il est un peu lourd, hein. Hachette cuisine avec les photographies d'Emanuela Cino. Bien sûr, les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Cette émission a été pensée et préparée avec l'aide de Léa Varin, réalisé par Jean-Christophe Francis. Aujourd'hui à la mise en onde, c'était Ludovic Auger. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.